va déguster. Sur France Inter.
Dominique Hutin, très heureux d'être à Blois.
Oui, mais enfin, moi je suis très docile surtout. Je me suis collé à la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire le travail. Je voudrais donc évoquer la vie et la mort du vin de labeur.
Alors rappelons que le travail n'est pas la thématique dont on va déguster, vous l'aurez compris, mais c'est la thématique des rendez-vous de l'histoire, 24e édition.
Exactement. Et ce vin de labeur, il a longtemps été incarné par le vin de table. Le vin de table, vous allez le voir, c'est aussi un petit peu l'histoire du vin de France, de l'histoire de France tout court, pardon. Alors cette histoire, forcément, comme l'histoire de France, elle est un petit peu tourmentée. Alors je vous rassure, ça finit bien. Voilà, un petit peu de patience. Le premier grand temps, c'est un âge d'or. Le vin a longtemps profité d'un statut de boisson médicament. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on dirait alicament, d'ailleurs. Et cette théorie, elle trouve des racines dans une prose médicale qui est très ancienne et qui faisait considérer la digestion comme étant liée à la cuisson des aliments dans l'estomac. Et les boissons qui étaient considérées comme froides, par exemple comme l'eau, ne convenaient pas. Alors que le vin, lui, était considéré comme chaud, était garant donc d'une bonne digestion. Ça a été une manière pour le vin de capitaliser pendant très très longtemps. Et puis, alors, je vais vous faire une première ordonnance. Je vous ai mis des verres, tiens, devant vous.
Avec modération. Hein.
Avec modération. Alors, ça n'est pas du vin de table. Je vais m'en expliquer un peu dans la chronique. Mais vous allez voir, c'est un héritier lointain. Vous avez deux types de verres. Alors, j'aurais pu amener les vins de la famille Puzla, qui est très connue dans le 41. Ils sont dans ma dégustation encore et toujours au rendez-vous. Je vous ai amené un vin d'Hermine de Clermont-Tonnerre. C'est une toute jeune vigneronne qu'il faut vraiment suivre, qui a sonné le réveil d'un domaine qui était endormi, voilà. Donc vous avez un gamay vraiment délié avec une couleur assez peu soutenue. Et puis vous avez aussi Marie Thibault qui, elle, vient avec son gros lot, qui est un autre cépage. Et tous ces vins-là, vous allez retrouver parmi 60 autres congénères sur notre site internet.
Ah, dégustation sur la page dont on va déguster.
Voilà,
franceinter.fr.
Exactement. Beaucoup de talents nouveaux, ça c'est intéressant. Alors le travail qu'on peut considérer comme une activité, mais aussi comme un lieu, ce travail il a été longtemps le siège d'une consommation qui a été encouragée avec des recommandations médicales. Alors évidemment différentes selon que la difficulté de votre métier, différentes aussi selon que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, il faut le dire. Avec l'idée suivante, c'est que le vin rouge est un reconstituant. Et la posologie, ça pouvait atteindre 2 à 3 bouteilles par jour. On trouve même des traces de 8 litres par jour.
Alors précisons qu'à l'époque, le vin avait un degré d'alcool un peu plus bas.
Voilà, on pouvait tutoyer les 6 degrés, les 8 degrés.
C'est vrai que ça fait peur, rétrospectivement.
8 litres par jour, c'était en Vendée. On embrasse bien sûr nos amis vendéens qui nous écoutent aujourd'hui.
Il y en a un dans la salle. Bonjour monsieur.
On va rester amis jusqu'à la fin. Alors... le vin était à ce point intimement lié au travail qu'une partie du salaire pouvait être payée en bouteille. Vous voyez, on est loin de l'époque contemporaine. Alors cet âge d'or, évidemment, Blois en a beaucoup profité, grâce notamment aux voies navigables, qui vont être des voies de commerce vers Paris. Et par exemple, en 1800, on estime que les vins de Blois et d'Orléans, c'est presque 20% de ce qui se boit à la capitale. Alors là, on est quand même tenté de remplacer l'expression « bois sans soif » par « Blois sans soif ». Autre vecteur...
Il a des fans dans la salle, amateurs de ces jeux de mots.
Alors après, ça se corse un peu malheureusement.
Oula.
Autre vecteur de consommation, la guerre. Rappelez-vous Napoléon, pas de vin, pas de soldats. Et en 14-18, on va même innover puisque c'est l'État qui va servir gratuitement jusqu'à 75 centilitres par jour à chaque soldat. Alors ça fait une bouteille. Alors évidemment, c'est une bouteille, mais c'est surtout une béquille psychologique pour supporter l'enfer des tranchées avant d'aller se faire transformer en confetti. On rappellera à toutes fins utiles que le maréchal Foch est aussi vigneron. Voyez le stratège ? Alors, le vin paysan, le vin ouvrier, le vin du soldat, le vin du peuple, en somme, ce vin du quotidien, évidemment, il a la langue bien pendue. S'agissant du travail, il va développer un argot des métiers pour évoquer l'ivresse. Par exemple, l'ouvrier d'imprimerie, il s'ancre lorsqu'il est ivre. Le porteur, il se charge la brouette. Et plus généralement, on va trouver beaucoup d'autres apports d'extraction populaire. Par exemple, ramasser une poivrade, se peinturer le tarbouif, sarsouiller la terrine, se graisser le toboggan, se lubrifier, le cervelet, s'inonder le corridor ou encore se goudronner le vestibule. Vient le deuxième temps, celui du déclin pour ce vin populaire. Et là, c'est l'uniformisation. Parce que pendant les années 30, on progresse énormément à la vigne, donc qualitativement. Mais en même temps, c'est déposé comme truc, non ? Oui, bon, en même temps, l'industrie pinardière, dans les années 30, va s'employer à massacrer tout ça et produire des vins qui vont être très neutres et très plats. Autre chose qui pointe, c'est la surproduction qui nous inquiète. Nous sommes là dans une France viticole et coloniale avec les vins de l'Algérie, et le tout est couplé dès les années 50 à une baisse de consommation des Français. Enfin, le bouleversement des repères sociaux avec les 30 Glorieuses, l'augmentation du niveau de vie, l'avènement d'un vin de qualité finalement, de convivialité au détriment du vin aliment, ce vin de travail, un vin de travail qui est à ce point générique qu'il n'a pas le droit de revendiquer sur son étiquette ni les cépages, ni le millésime, ni la région de production, et qui n'a pas de cahier des charges pour la production. Donc ajoutons simplement que la disparition des exploitations agricoles, le tissu industriel qui lui aussi se délite à cette époque-là, et puis en même temps l'émergence d'un secteur tertiaire et de campagnes de lutte anti-alcoolique, tout ça va acter une espèce de désamour pour le vin de labeur. Et finalement, ben oui, les campagnes d'arrachage vont poindre et on ne compte plus en 2009 que 5% de vignes qui sont fléchées vers la production de vin de table. Donc, nous sommes dimanche, la messe est dite, il n'est plus au goût de l'époque. Ce vin arrive enfin 2009, c'est le dernier volet, qui va entériner administrativement la disparition du vin de table et construit un nouveau modèle qui va s'appeler le vin de France. Voilà. Il est toujours élaboré sans cahier des charges, contrairement aux signes de qualité AOC, AOP, vous les connaissez, hein, les Touraines en bois, les Touraines Mélan, les Chevernis, les Touraines qui entourent bois, en tout cas. Et ce vin de France va se raconter, lui, plus librement en communiquant avec l'étiquette, cépage, millésime, etc. Et cette nouvelle catégorie, finalement, elle est mieux armée pour la castagne à l'export. Vous imaginez un peu la force des vocations aux États-Unis, au Japon, vin de France. Et ça, ça a été extrêmement porteur. Et accessoirement, il va véhiculer une nouvelle image sociale et devenir un nouvel espace de créativité aussi et de valorisation, du coup, pour ceux des vignerons qui sont foncièrement indépendants, il faut le dire, sont quand même des gens qui sont souvent en bio, souvent en vin naturel. Donc le vin de table est mort. Eh bien, très bien, vive le vin de France.
Voilà, le vin de France. Merci beaucoup, Dominique.